une vente aux enchères top secrète.
Et oui, Nathalie, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alma et Marina Akoun-Levikov, deux artistes peintres qui sont avec moi dans ce studio. Et ils viennent nous parler d'un projet un petit peu curieux, on a envie d'en savoir plus, une vente aux enchères secrète. Alors, qui a eu cette idée qu'ils se dénoncent ?
Je me dénonce parce que j'ai eu le plaisir de participer à des enchères de cette sorte. C'était à la Fondation Cartier, qui était à l'époque à Juillan-Josas. Maintenant, elle se trouve à Paris. Donc, le principe, c'est une exposition avec des œuvres. Les œuvres sont numérotées et elles sont proposées avec un prix de réserve, un prix plancher. Les visiteurs voient l'exposition, s'il y a une œuvre qui leur plaît, ils ont un petit bulletin à remplir avec leur nom, leurs coordonnées et le prix qu'ils proposent. Il faut enchérir un petit peu ou beaucoup, ça dépend. À la fin de l'exposition, il y a le dépouillement et donc l'offre la plus élevée emporte l'œuvre.
Alors, on aura des œuvres de qui dans cette exposition ? Et rappelez-nous, c'est bien à la galerie Fred K, hein, c'est ça, l'exposition ?
Oui, l'exposition est à la galerie Fred K, qui est entrée dans une dynamique un peu plus active maintenant, parce qu'on a pas mal de projets. Et donc, les artistes qui participent, c'est Alma, avec des peintures et des sculptures. C'est Chantal Thor, avec ses œuvres papier, autour du papier. C'est Alain Berger avec ses sculptures. C'est moi-même.
Vous-même.
Moi-même avec des peintures et des encres.
Il y a quelqu'un d'autre. Puis il y a Pierre,
Pierre Schott avec des écrits, des présentations assez humoristiques, une mise en forme visuelle avec des photos, avec des textes. Voilà.
Et puis Henri.
Il y a Henri Cartman.
Qui donne des photos, couleurs.
C'est par...
très coloré.
Que vous connaissez bien. Hein,
Oui. Oui,
Alors justement, Alma, vous allez vous aussi exposer. À votre avis, quel est l'intérêt de ce genre de vente aux enchères secrètes ?
C'est un intérêt qui est multiple. Un, on essaye de démontrer aux gens qu'on peut accéder aux œuvres contemporaines, plus exactement d'aujourd'hui, faites par des artistes vivants. Ce n'est pas hors de prix. Deuxièmement, on essaye de démontrer que on peut vivre avec une œuvre d'art facilement. Troisièmement, on ne fait pas autre chose que prolonger l'action de l'artothèque, qui, elle, loue des œuvres d'art à des prix totalement dérisoires. Et puis, l'autre envie, c'est de démontrer que l'œuvre d'art n'est pas sacrée. On peut vivre avec tous les jours. Notre problème, qui est multiple, il est aussi, on essaye de le résoudre d'une autre manière. Depuis 3 mois, la galerie Fred K, qui est gérée par la galerie Point d'interrogation, qui est une association, essaye de multiplier les activités. C'est-à-dire qu'en même temps que cette exposition, qui est à destinée de vente, il va y avoir un concert, vendredi 6, concert de musique du monde, une chanteuse. Le groupe s'appelle Silao, une chanteuse, un guitariste qui chante du brésilien à l'Europe centrale, du tzigane au yiddish, je crois même qu'il y a un peu du Brassens. Donc on essaye de faire venir aux œuvres picturales des gens qui s'intéressent à la poésie, à la musique, histoire d'agrandir un peu notre fréquentation.
Alors justement, vous parliez du fait qu'on peut vivre avec une œuvre d'art, qu'elle n'est pas sacrée. Dans notre société, c'est vrai qu'on est un petit peu peureux, on va dire, face à une œuvre d'art. On a une espèce de peur de se dire « c'est pas fait pour moi, c'est trop cher ». Il y a quelque chose qui enveloppe comme ça les œuvres d'art. Pourquoi ça ? Qui est responsable ? Est-ce que c'est le marché de l'art, justement, et puis toutes ces, tout, les valeurs de certains, la valeur attribuée à certains artistes. Marina, sur le marché de l'art, vous avez un avis ?
Le marché de l'art, il a fait... on parle du marché de l'art, le grand marché de l'art, le marché spéculatif.
Tout à fait.
Et il a fait beaucoup de tort parce qu'il a éloigné le public de l'œuvre. Il a fait une séparation totale. Donc c'est de la spéculation. On n'achète pas parce qu'on aime, mais parce qu'on pense pouvoir éventuellement revendre plus tard, ou alors c'est une image de marque, etc. Maintenant, ce qui est important, c'est d'amener le public, le rapprocher avec les œuvres et qu'il... sans complexe, ils puissent les apprécier. Et qu'il est... Bien sûr, il faut développer cette culture tournée vers le monde artistique. Il faut le développer depuis l'enfance, depuis l'école. Mais il faut absolument qu'on puisse apprécier des œuvres sans passer par le grand marché de l'art spéculatif. Alors, ce qu'on voudrait par cette manifestation, on voudrait pousser les gens ou les inviter à passer la porte de la galerie, de passer ce cap, de venir et apprécier simplement, sans aucun préjugé ou sans aucune peur, d'apprécier les œuvres comme ils l'entendent, et éventuellement de passer à l'acte, c'est-à-dire d'acquérir les œuvres. Et là, on a quand même, c'est très encourageant, et puis c'est sous forme de jeu, ça va être un peu festif, et quand même avec... des prix qui vont être assez... Enfin, ce sera pas toujours comme ça. Hein. Ce seront des prix vraiment pour cette manifestation.
On peut avoir justement un ordre de prix ?
Un tableau, 50 euros comme prix plancher. Une sculpture, 60 euros comme prix plancher. Des sculptures qui se vendent habituellement 600, 800 euros.
Oui.
Voilà la différence.
Voilà. Alors, on peut dire de façon générale, je pense déjà au minimum, ce sera un tiers du prix habituel, voire beaucoup plus même. Hein, donc c'est intéressant, c'est une façon de vraiment se rapprocher du public. Enfin, on espère qu'il va répondre à cette invitation.
Et moi j'ai une question, je suis curieuse. Est-ce que vous deux, vous-même en tant qu'artiste, vous avez déjà acheté une œuvre d'art et est-ce que vous vous souvenez de cette première fois ?
Vous plaisantez. La majorité de nos premières œuvres vendues n'ont pas été vendues, elles ont été échangées avec un autre artiste. On a tous fait ça. C'est-à-dire que, une artiste vient dire, et quand c'est une artiste ou un artiste qui dit « Ah là, ta sculpture, elle est absolument magnifique, je ne peux pas l'acheter, je n'ai pas d'argent. » Et à ce moment-là, la négociation commence. « Qu'est-ce que tu me montres, toi ? Si tu veux, tu payes en 10 fois. » Donc, c'est bien sûr qu'on a acheté. Moi, j'ai embêté mes petits-enfants pendant des années. Maintenant, ils commencent à être grands. Donc, j'ai plus de prise sur eux. Mais à Noël, je leur offrai une œuvre d'art. J'ai acheté à Marina.
On a même échangé.
J'ai acheté un truc. Et le sidérant, c'est qu'au bout d'un certain temps... quand j'ai acheté ton truc là, le dit du prince Igor, je l'ai amené chez un de mes fils et les deux petits-enfants se sont battus pour l'avoir. Ils étaient déjà arrivés à un niveau. Et c'est là où je vais devenir très prétentieux. Nous avons une mission d'animation culturelle. Et cette mission... Pourquoi est-ce qu'on se l'est attribué ? On ne se l'est pas attribué. Elle nous est tombée dessus parce qu'ailleurs, c'est une inculture scandaleuse. Scandaleuse. On ne sait pas ce qu'est la peinture. On ne sait pas analyser une image. Et je ne parle pas que de la peinture. J'ai fait un topo sur voir et comprendre la peinture. Je ne fais pas de différence entre la photographie, la gravure, la peinture, la sculpture. Ce sont des fabrications d'images. On n'apprend pas à lire une image. On vous les impose, alors qu'à l'heure actuelle, dans la moindre revue féminine, les images sont d'une qualité extraordinaire. Et les gens ne les regardent pas. Et donc, il faut leur apprendre. Alors, voilà, nous, à Manosque, on est là, 6 ou 8 couillons, à dire on va leur apprendre, malgré eux.
Est-ce que c'est possible d'apprendre malgré quelqu'un ?
Ça ne peut être qu'autoritaire. Bien sûr. Alors, il faut que ce soit une autorité douce et subtile, comme savent le faire les femmes.
Sur la durée, sur la durée. Sur la durée. Il faut pas être impatient sur la durée. Je peux dire que ça fait au moins 40 ans que j'essaye de faire entrer la culture et c'est en fait une œuvre, une peinture, une sculpture ou quelle que soit la forme ou une photo, c'est donner forme à l'esprit, hein, c'est matérialiser l'esprit, hein, et on en a tous besoin, hein, de l'esprit, de la culture. Alors oui, pour à propos de achat d'œuvres, je me souviens des deux œuvres que j'ai achetées, mais alors pas échangées, achetées. Et ça, c'est
avec
vrai
tes
que,
sous.
Avec des
alors,
sous.
Racontez-nous.
Des sous qu'on n'a pas.
Racontez-nous, c'était quoi ces deux œuvres?
Mais alors une, c'était pas une œuvre, c'était le livre Fatra de Jacques Prévert, et j'avais de l'argent pour acheter une paire de chaussures à mon mari. Et j'étais allée à Paris et j'ai acheté le livre à la place des chaussures. Il a pas eu des chaussures.
Ça, il vous en a pas voulu.
Étudiant. Non, parce qu'il aime Prévert aussi. C'est avec Prévert qu'on s'est un peu rencontrés. Et après, une œuvre que j'ai vraiment achetée, c'était dans une galerie. C'était une gravure d'une très belle graveuse. C'était en Israël. J'ai acheté ça dans une galerie. J'étais très fière. Et la troisième, c'était dans le cadre d'enchères secrètes à Juillan-Josas, donc à la Fondation Cartier. Et c'est ça qui
vous a donné l'idée aujourd'hui.
Oui.
Justement, une fois qu'on a franchi le pas, parce que finalement, des fois, il s'agit seulement de franchir le pas, de se dire, moi aussi, je peux, si je suis tombée amoureux d'une œuvre d'art, je peux aussi me l'offrir. Est-ce qu'il s'agit justement, des fois, simplement de franchir le pas?
Oui, alors pour nous, je pense que le pas, il est financier. Et le pas, on le franchirait volontiers, hein, très souvent, chaque fois qu'on va voir. J'ai oublié encore une œuvre de calligraphe qu'on avait achetée aussi. Voilà, mais c'est pas difficile de franchir le pas. Je pense qu'on est prêt. Mais alors, c'est les finances qui doivent suivre. Alors souvent, le corps enseignant a envie d'acheter. J'ai eu ça souvent, mais alors ils ont pas des ressources infinies. Ils achètent des formats appropriés au portefeuille.
Et finalement, j'ai une question un petit peu, on va dire, un petit peu critique. C'est dans cette œuvre d'art là, cette vente aux enchères que vous mettez en place. Vous le disiez tout à l'heure, Alma, c'est quand même le plus riche qui va remporter les œuvres d'art.
Mais ça a tout le temps été comme ça. Ça a tout le temps été. Mais là, il s'agit d'une richesse modeste. Hein.
Oui.
Je veux dire que vous pouvez aujourd'hui n'importe où acheter une litho, une gravure magnifique. À moins de 100 euros. Donc, je veux dire que c'est pas si difficile que ça. C'est qu'en fait, dans le schéma intellectuel, ça n'existe pas. Ça n'existe plus aujourd'hui, à cause du crédit, à cause de la façon dont nous vivons.
À cause de la consommation, tout simplement.
La grand-mère qui avait des boîtes à chaussures, et qui, alors, le budget, on mettait de l'argent de côté pour les chaussures du petit, le machin, le truc. Il n'y avait pas de boîte pour les œuvres d'art. Les œuvres d'art, ils se les faisaient. Mais ça sous-entend qu'ils aient une culture, eux. Quand un berger des Alpes, avec son opinel, prenait un morceau de bois et sculptait une rosace dessus, il était artiste.
Finalement, vous êtes en train de dire qu'on est tous artistes, potentiellement être artistes. Alors, à partir de quel moment on parle d'une œuvre d'art ?
À partir du moment où elle est aboutie, elle est le résultat d'un vrai travail.
Et qui c'est qui décide qu'elle est aboutie ?
Et mental aussi. Un travail autant physique,
technique et intellectuel.
Et mental aussi.
Bien sûr. Qui décide ? C'est celui qui fait.
Parce que.
Il n'y a pas une étiquette officielle artiste. Bon, vous faites les beaux-arts, et puis on s'aperçoit que, moi j'ai eu la fille d'une amie qui a fait les beaux-arts de Paris, quand même beaux-arts de faire à Paris, et qui maintenant est jardinière, ce qui est assez ahurissant, mais elle est artiste dans son jardin. Je veux dire que, il n'y a que les grandes écoles qui vous donnent une étiquette, sinon le nombre de ceux qu'on appelle autodidactes, à tort d'ailleurs, à mon avis, des musiciens, des compositeurs, des devenus très grands. Hein, la majorité des musiciens de jazz de ma jeunesse, ils étaient autodidactes, ils avaient appris tout seul, sur le tas. en bossant comme des fous.
Et c'est votre cas, vous deux? Vous êtes autodidacte ou vous avez fait des écoles, chacun?
Moi, j'ai fait des études de beaux-arts.
Vous avez fait des études de médecine.
Oui, mais j'ai eu un professeur de dessin. J'étais dans un collège où le professeur, on l'avait de la 6e à la terminale, et j'ai eu un prof de dessin qui a été tout à fait déterminant. Et puis, quand j'ai décidé de me consacrer à l'art, j'ai fait les beaux-arts de Digne et puis les beaux-arts d'Aix. Parce que si on a le temps, on peut prendre son temps. Mais quand vous avez 60 ans passés, vous savez que la mort est proche. Et donc, on n'a pas de temps à perdre. Et que les professeurs, des vrais professeurs, ce sont des gens qui vont vous éviter de perdre du temps. Ils ne vont pas vous éviter les erreurs, parce que même ils vont vous en faire exprès. Mais ils vont vous éviter de perdre du temps. On n'a plus de temps à perdre. Et c'est ça l'avantage de l'école. C'est pour ça que Marina persiste, s'entête à donner des cours de temps en temps, parce que c'est quand même une manière de passer le savoir, d'expliquer aux gens que la peinture, c'est comme le chinois, ça s'apprend, comme disait Picasso, et qu'on gagne du temps en apprenant. Et on peut acquérir cette espèce de qualité extraordinaire qui est la capacité d'autocritique. Ça, c'est bon, ça, je jette.
Marina, vous alliez rajouter quelque
chose. La technique, c'est comme le vocabulaire. C'est comme le vocabulaire, hein, c'est comme l'alphabet, le vocabulaire, etc. Après, il faut transmettre quelque chose, c'est-à-dire apprendre à penser. Apprendre à penser ce qu'on fait, d'être conscient de ce qu'on fait. Que ce ne soit pas seulement des gestes en l'air, que ce soit quand même penser. Et Da Vinci disait quand même que la peinture est causa mentale, c'est une chose mentale aussi.
Est-ce qu'en tant qu'artiste, quand vous peignez quelque chose, vous imaginez la prochaine vie de l'œuvre que vous peignez ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Enfin, pas moi en tout cas. Non. Moi, j'ai un problème, j'ai toujours un problème technique à résoudre. Et j'essaye de me défendre du côté intellectuel de l'acte créateur. Mais comme disait Tonton Sigmund, l'inconscient, il est là. Et de temps en temps, il ramène sa science, hein, obligatoirement. Donc, c'est Beckett qui disait « Pourquoi est-ce que j'écris ? Je ne peux pas faire autrement. »
Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement. Et quand, pendant un certain temps, on ne peint pas ou on ne produit pas, on devient nerveux.
Irritable, comme quelqu'un à qui on supprime le tabac.
Donc, finalement, cette vision un petit peu cliché, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir de l'espèce de pulsion d'art de l'artiste. On voit toujours l'artiste devant sa toile qui va d'un coup devoir sortir quelque chose. C'est un petit peu vrai ?
D'un coup, je ne sais pas. Mais ça dépend. Chaque artiste travaille de façon différente. Il y en a qui ont toute l'œuvre, tout le tableau dans la tête avant de commencer. Il y en a d'autres qui ont un dialogue avec la toile. Ça se fait au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui projettent directement. Ça, c'est, je pense.
Et vous, c'est quoi, Marina ?
Plutôt ce serait dans le dialogue, ça se fait au fur et à mesure, mais avec une certaine idée déjà, mais pas aboutie, donc ça se fait en marchant.
Avant de conclure juste cette interview, je me demandais, est-ce que vous allez faire une compète entre vous, les artistes, pour voir qui va faire le plus gros prix
à cette vente aux enchères. on n'est pas sur un terrain de sport, là. Il n'y a pas de mesure, là. C'est pas parce qu'on a vendu qu'on est meilleur.
Mais c'est une façon de mesurer quand même le goût des
gens.
Non,
encore une fois, cette espèce de prétention, c'est si on a vendu, c'est qu'on a réussi à expliquer que c'était une œuvre d'art accessible. C'est ça le vrai problème. C'est quand vous présentez, et Dieu sait si à la galerie on a présenté des choses un peu difficiles, la réaction des gens c'est « ils se foutent de moi » ou « ça n'est pas pour moi, c'est sacré » ou « tiens, c'est intéressant ». Et c'est celui-là qui nous interpelle. Pourquoi il a dit que c'était intéressant ? Parce qu'il a comparé ce qu'il voit à ce qu'il a dans sa mémoire. On ne voit que ce qu'on connaît. C'est ça le vrai problème. Il faut donc faire connaître aux gens. Il faut les cultiver.
Et il faut qu'ils pratiquent. C'est comme la musique. Plus on entend la musique, plus on a une oreille critique et on peut comparer, juger. C'est la même chose avec les expositions. Il faut y aller beaucoup. Et comme ça, on développe son œil. Et
de temps en temps, on souffre.
Et c'est aussi le but de l'Artothèque, Marina. On fait un petit clin d'œil en passant à l'Artothèque qui justement nous a prêté des tableaux de vous-même qu'on a la chance d'admirer tous les jours dans les locaux de Fréquence Mistral. Et l'Artothèque a aussi cette volonté de donner à voir, de pouvoir faire rentrer l'œuvre chez les gens qui ont envie
de rapprocher les gens avec l'œuvre.
Vous avez utilisé le mauvais mot. Elle n'a pas prêté, elle vous a loué. Ce qui est tout à fait différent. Il y a un acte d'échange là.
C'est vrai.
Vous avez accepté de recevoir ça, moyennant, j'allais dire un sacrifice, il ne faut pas exagérer, il n'est pas très énorme, mais le geste est là. Le franc symbolique, il est très important.
On rappelle juste, pour louer une œuvre d'art à l'Artothèque, Marina, vous nous rappelez un petit peu les conditions ?
Alors, il y a
une adhésion, je
une
crois.
Une adhésion annuelle. Et après, c'est donc chaque œuvre, elle est empruntée à 10 euros. Et pour un mois, je crois.
Oui, pour un
oui,
mois.
Oui, c'est ça, pour un mois. Alors, on va justement terminer, parce que malheureusement, le temps nous est imparti. On en parlait tout à l'heure du temps. Qui est-ce qui nous donne des petits détails techniques, des contacts? Comment on peut se rendre? Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, hein, cette vente aux enchères secrètes. C'est jusqu'au 10, c'est ça?
Oui.
Et donc, vous pouvez nous rappeler l'adresse peut-être de la Galerie Fred et un numéro de téléphone éventuellement?
Alors, l'adresse est 14 rue Kléber. C'est au niveau du 13 de la place du Terreau. Il y a une petite rue qui s'appelle la rue Jean Burle. Et au bout de cette impasse, il y a la galerie. Il y a maintenant, grâce à l'équipe d'Enfer qui fait partie de l'association, il y a toute une série de signalisations. C'est tous les après-midi de 15 à 19.
Samedi, dimanche compris.
Samedi, dimanche compris.
Là, jusqu'au 10.
Jusqu'au 10.
Voilà.
Avec le dépouillement, hein, le 10. 10. Voilà, donc c'est entrée libre, hein. On peut venir simplement voir si on veut.
Entrée, sortie libre, tout.
Et le téléphone, moi le mien c'est le 06 88 57 85 99.
Je précise que vous retrouverez toutes ces informations sur notre site fréquencemistral.com d'ici quelques instants. Je vous remercie à tous les deux d'être venus dans nos studios et puis je vous souhaite une belle vente aux enchères secrètes.